4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud pousse d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour, amis bons vivants. Ravi de vous retrouver au studio Coluche. Entre nos conseils et nos bonnes adresses, on va continuer, hein, comme la semaine dernière au Salon d'Agriculture, de s'intéresser à notre agriculture, justement. Peut-on manger bio et pas cher? Comment réduire notre gaspillage alimentaire? Nous allons poser ces questions à l'agronome Marc Dufumier qui vient nous voir avec son nouveau livre passionnant, De la terre à l'assiette. Et nous partagerons le plat du jour avec deux acteurs bons vivants, Olivier Marchal et Gérard Lanvin, se mettront à table avec nous, les amis. Ce sont deux bons vivants également. Les voici, généreux et décontractés. C'est un sage quand il s'agit de bien manger. C'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour. Bonjour Olivier.
Enjoué et passionné, il est avisé quand il s'agit de choisir la bonne bouteille. C'est Olivier Pouls.
Bonjour et Olivier. J'espère que la bouteille que je vous ai préparée pour aujourd'hui vous ravira et nos invités aussi.
J'ai vu l'étiquette, c'est du lourd comme on dit. Jean-Luc Petit-Renaud sera des nôtres après 11h30 et Marion Sauveur se rapproche avec son journal de la cuisine. Et bien voilà, à table les amis. Alors, avant d'aller faire un petit tour au marché du côté de Lyon avec Jean-Luc Boujon, on va se rappeler notre goût de la semaine, en famille, entre amis, en vacances ou un déjeuner de travail peut-être. Tiens, quel est votre goût de la semaine? On va commencer par vous, Yves Candebord, à la mine réjouie. J'aime bien quand le samedi matin, vous avez cette mine réjouie. Comme
et oui, je l'ai réjouie, Laurent, parce qu'on est en avance et mon goût de la semaine, c'est les asperges vertes de Provence. C'est vrai que tous ces légumes d'hiver sont merveilleux. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de les voir arriver.
On a eu un hiver plus rigoureux que celui-ci, hein, quand même. Mais c'est vrai que
on
du coup,
les
légumes sont en avance. Quoi.
Les légumes sont en avance et là, j'ai cuisiné cette semaine des asperges vertes avec un peu de lard blanc, d'un porc noir de Bigorre, un peu de cannelle. Et juste, j'ai rajouté avec un cahier de brebis. C'était une petite merveille.
Ah, c'est beau ça. Et les asperges blanches sont là, on en parlait la semaine dernière au Salon d'Agriculture. Et celles des Landes, par exemple, sont déjà arrivées. Quoi.
Oui, tout à fait. Tous ces légumes-là sont un peu en avance. Écoutez, on ne va pas s'en plaindre.
Alors,
pour une fois.
On va en profiter. Voilà. Olivier Pouls, camarade, votre goût de la semaine.
Goût et rituel presque de la semaine. Figurez-vous que l'apéro, moi, le samedi soir, il y a un incontournable. C'est le bulot mayo. J'adore ça.
Ah, j'adore. Moi.
À des bons bulots cuits dans un bouillon bien corsé. Oui,
bien assaisonné, c'est important.
Bien
ça,
poivré, ouais. De manière à ce qu'ils aient du goût. J'aime cette texture que tout le monde n'apprécie pas, mais moi, j'aime ces textures, surtout quand ils restent bien moelleux. Et puis une mayonnaise maison,
ah oui.
Un petit coup de blanc, franchement. Le week-end est bien.
Cuisson courte, hein, le bulot, c'est quoi? C'est 10 minutes à peu près.
Oui, parce qu'il ne faut pas justement, si on les laisse trop cuire, ça devient caoutchouc.
Exactement. Mon goût de la semaine, eh bien, il est végétal et charcutier à la fois. C'est encore la saison du potimarron. Un joli potimarron que j'ai coupé en quartier. J'adore ça, hein, je vous en parle de temps en temps, mais j'aime bien changer justement les garnitures. Je le mets au four avec de l'huile d'olive, des gousses d'ail, une belle saucisse de porc et de veau que j'avais acheté chez mon charcutier. Je la découpe par-dessus. Et puis à la sortie, j'ai râpé un joli fenouil bien anisé. Comme ça, et du kumquat. Et donc ça marche bien, tous ces parfums comme ça. Le porc, veau avec le fenouil se disent des trucs. Et puis le potimarron, voilà, c'est un féculent, c'est rassasiant pour le soir. Allons-y.
Avec deux, trois goûts, on a un repas complet là.
Mais, ouais. Non, mais
belle
c'est
assiette.
Vrai. Là, on a un menu du week-end.
L'apéro, l'entrée, le plat.
Exactement. Et bien voilà, les amis, c'est l'heure d'aller au marché. Prenez vos cabas. Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 Lyon, nous emmène au marché de Vaise, dans le 9e arrondissement. Une question tient au bout du micro. Quel plat cuisinez-vous pour vous réchauffer?
Le brocoli est très très bon en gratin avec une bonne béchamel et un petit bout de comté râpé. C'est excellent, moi mes enfants ils en raffolent. Après avec tout ce qu'on a, carottes, pommes de terre, navets, on peut faire un bon potage pour le soir pour bien se réchauffer le ventre.
Mangez la France, deux barquettes, 2 euros.
Qu'est-ce que vous avez pris?
Un pot-au-feu. Bah oui, ça réchauffe le pot-au-feu. J'ai pris des oignons, j'ai pris des poireaux, des carottes et là je vais aller acheter la viande.
Bah moi j'ai pris des carottes parce que je vais faire un braisé. Vous achetez de la basse-côte, vous faites revenir avec des petits oignons. Vous coupez vos carottes, vous mettez vos carottes, un verre de vin blanc, des herbes et vous laissez mitonner pendant une heure et demie. Moi, je suis très cuisine traditionnelle. Je respecte les saisons. C'est-à-dire pot-au-feu, poule au pot, poté éventuellement. C'est pour ça qu'on a des belles formes.
D'accord. Je pense qu'on peut les applaudir. Nos auditeurs rencontrés sur ce marché à Lyon, dans le 9e arrondissement, parce qu'ils respectent la saison. Et puis, c'est un retour aux sources comme ça des grands classiques et des plats traditionnels de notre cuisine. Hein, Yves Candebord?
Ouais, sa cuisine, voilà, ce qui
ça
vient,
fait plaisir.
Que chacun a sa petite recette, son petit secret, son petit produit. Ça fait plaisir, ça donne envie. Et il faut cuisiner, bah, ça met de la bonne
humeur. Et on prend du temps le week-end, une belle blanquette. Ouais. On a le temps de braiser le week-end, donc c'est parfait aussi.
Et ce qui me rassure, c'est que finalement, tous ces plats qui prennent du temps, qui sont des plats de mijotage, eh bien, reviennent et les gens les refont. On n'a pas que des gens qui sortent un truc du frigo, qui le mangent.
Non, ça prend du temps, pas tant que ça, en fin de compte, parce qu'il y a un peu de préparation de base, et après, ça se fait tout seul.
Exactement, c'est ce que je dis régulièrement aussi. C'est la cuisson qui prend du temps, mais pendant ce temps-là, on fait autre chose.
Exactement.
Tapez là, Yves Candebord. Nous sommes d'accord. C'est encore les vacances d'hiver pour certains. Alors, sortez vos poêlons, les amis. On vous invite à une raclette partie dans un instant. Ah, ça vous plaît, ça, hein?
Ah, je mets mes après-ski, j'arrive.
Quel fromage choisir? Quelle charcuterie? Eh, on va la faire dans les règles de l'art, la raclette. Marion Sauveur est allée choisir un joli fromage pour vous. On va tout vous dire juste après ça. Bon samedi matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Alors, ce samedi, nous vous parlons d'un sport d'hiver qu'on pratique tous à cette table, et vous aussi, hein, de l'autre côté du poste, j'en suis certain. C'est la raclette. Alors, bien entendu, les amis, on ne transige pas sur la qualité du fromage. On va vous dire lesquels choisir, justement. Mais pendant que l'appareil à raclette chauffe, je vous ai préparé un jeu pour devenir le maître du poêlon, on va dire. Deux candidats autour de moi, Olivier Pouls à ma droite et Yves Candebord à ma gauche. On va faire un vrai faux de la raclette, hein, parce qu'il y a plein d'idées reçues autour de la raclette. Donc, vous avez l'air inquiet, Yves, inquiet, Olivier aussi. Alors. On va commencer par vous, tiens. Olivier. La charcuterie a toujours accompagné la raclette. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Non, c'est faux, je pense.
Oui. Bravo.
Traditionnellement, c'était les pommes de terre et le fromage, voire le pain.
Exactement.
Et le fromage.
Le pain et le fromage et la pomme de terre. Et on dit que c'est un berger dans les Alpes, en Suisse, en France, en Italie, on ne sait pas trop où, mais en tout cas, qui par inadvertance aurait mis près du foyer son morceau de fromage qui aurait fondu. Et c'est comme ça que serait née la raclette. C'est une belle légende en tout cas.
Pulse one point.
Yes. Yves Candebord, les Français préfèrent la raclette à la fondue. C'est vrai ou c'est faux?
C'est raclette fondue.
Il préfère la raclette à la fondue.
Ouais, je dis que c'est vrai.
Eh bien, c'est vrai. 71%, ouais. Bravo, des Français préfèrent racler plutôt que fondre. Ouais. C'est un sondage de l'Institut YouGov.
Mais c'est vrai que c'est meilleur quand même. Moi aussi, je préfère racler que
oui,
fondre.
Oui, puis on peut mettre du légume autour. C'est, ouais, voilà, on va en parler justement. Quand on parle de raclette, Olivier Pouls, on dit une tome de raclette. C'est vrai ou c'est faux?
Ça doit être vrai.
Oh bah alors, c'est faux, on dit une meule, car la raclette possède environ 30 cm de diamètre, et une tome, c'est un peu plus petit en fait, voilà. Yves Candebord, tiens, vous allez répondre, je suis sûr que vous savez ça. La raclette est aphrodisiaque, c'est vrai ou c'est faux?
La raclette est aphrodisiaque.
Ça dépend de la quantité qu'on en mange, à mon avis.
Je pense pas, parce que ça sort de... Non, Olivier, je crois qu'Olivier a raison.
Bonne réponse, c'est faux. Le seul désir que vous pourriez avoir après une raclette, c'est celui de dormir, en oui. fait, souvent. Et dernière question, Olivier. La raclette de Savoie est le dernier fromage en date à avoir obtenu une IGP, une indication géographique protégée. Vrai ou faux?
Je pense que c'est vrai.
Eh ben, bravo. Ah, vous êtes bons, les gars. Hein. Bravo. C'est Marion Sauveur, d'ailleurs, qui va nous en donner la preuve. La raclette de Savoie, les amis, se fabrique dans les Alpes, hein, sur les deux départements, la Haute-Savoie et la Savoie. Elle bénéficie d'une IGP depuis 2 ans. Et Marion Sauveur s'est rendue à la ferme des 4 saisons, à Régnier, en Haute-Savoie, pour fabriquer ce fromage, juste après la traite du jour. Écoutez.
Donc la traite de ce matin.
Directement dans la cuve.
Si vous l'avez cru. C'est ce qui fait le raclette de Savoie. Donc ma cuve est pleine.
600 litres de lait là.
Ouais. Les ferments aident à égoutter le fromage et à apporter du goût dans le fromage. Donc la prochaine étape, c'est de mettre la présure. C'est ce qui se trouve dans la caillette du veau. Ça va faire cailler mon lait. Il va se figer là.
Ouais, c'est impressionnant comme le lait a pris. Hein.
Ouais. Je suis en train de couper mon cahier. Voilà, et je coupe en croix. Comme la croix de Savoie.
Pour la raclette de Savoie.
Oui, donc c'est le but, ça forme des petits carrés. Voilà, c'est bon. J'enlève mon petit lait de la cuve.
Et ce petit lait, on le remplace par de l'eau.
De l'eau chaude, ouais. Ah bah, en fait, elle va se mélanger avec le petit lait.
On va laver les grains, en quelque sorte.
En fait, ça va enlever aussi la matière grasse qu'il y a dans le lait. Et là, on est bien. Voilà, donc c'est parti pour le moulage de la raclette. Donc, je prends ma toile qui va permettre de séparer le grain du petit lait, en fait. Quand je vais plonger mes bras dans la cuve, je vais ramener que du grain. Donc, je resserre les bords de mon moule avec un marteau. On va les mettre sous presse. Et là, c'est parti. Ça va presser les raclettes.
Et ben voilà, on presse la raclette et ensuite on se régale, on la fait fondre. Merci Marion Sauveur pour ce joli reportage à Rainy en Haute-Savoie, à la ferme des 4 saisons. On a ce fromage à raclette qui est avec nous à la table des bons vivants.
Ça parfume délicatement le studio.
Bord, ça parfume le studio sans
blanc. Ah oui,
Fabienne Lemoyle qui va arriver juste derrière va se régaler.
J'espère qu'à la fin. Hein.
Fromage au lait cru, hein, on l'a dit dans le reportage. Il y a aussi la raclette du Valais en Suisse qui est très bien avec des notes fleuries. Amis auditeurs, quand vous choisissez le fromage à raclette, franchement, ne lésinez pas sur la qualité, hein. Faites quelque chose de bien et évitez effectivement ces barquettes avec les gels fromage prédécoupés.
Il faut aller chez le fromager.
Exactement. Elle est bonne, Yves Candebord ?
Elle est très très bonne. C'est vrai qu'elle est très bonne parce qu'elle est très parfumée, elle est fleurie. Et c'est vrai que c'est riche. Mais l'avantage d'une raclette, c'est que c'est riche et fleuri à la fois, donc il y a un très bel équilibre.
Alors justement, on peut s'amuser à détourner aussi les fromages dans la raclette. On pourrait mettre un chèvre,
du reblochon, du morbier, du comté. Mais on parlait avec Yves tout à l'heure de la manière de faire fondre le fromage. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a ces espèces de raclette
Ouais.
Franchement, quand on a le vrai appareil à raclette, où on met justement la meule ou un morceau de la meule dedans.
Oui, même un quart.
Ça a un autre goût.
Oui, c'est totalement différent. C'est vrai que l'appareil à raclette classique, il est crémeux. Pas ça fond, c'est le côté crémeux. Tandis que le poêlon, ça fond un peu en se dissociant.
Oui, c'est pas la même chose.
C'est vraiment différent.
Mais bon, le plaisir est quand même là quand on a le bon fromage, les bonnes pommes de terre et la bonne charcuterie. Quelle charcuterie tient avec la raclette alors ?
Alors moi, j'ai une petite. Il y a une chose que j'adore avec les raclettes.
Je sens qu'il va nous amener du Pays Basque là.
Non, mais pas spécialement d'une région précise, mais d'avoir une charcuterie un peu fumée. Je trouve qu'avec le fromage, avec la raclette et le fumé, ça se marie remarquablement bien. Donc j'aime toutes ces spécialités régionales de charcuterie légèrement fumée.
Mais un bon saucisson fumé à l'ail aussi,
très,
ça peut
très
marcher.
Bon.
Une belle rosette, un filet mignon de porc fumé.
Une belle poitrine de
braisaola.
La viande des grisons évidemment aussi, qui a un côté un petit peu plus sec peut-être, mais qui est
comme la braisaola, c'est pareil.
Exactement.
Hein.
Mais après Laurent, c'est comme la raclette, on ne lésigne pas avec la qualité.
Mais oui,
peut-être
c'est vrai.
Mieux vaut en mettre un peu moins et ramener aussi un peu de légumes, parce que ça peut être très intéressant.
Oui, et Solveig Darrigaud, qui est nutritionniste, qui était à cette table il n'y a pas longtemps, nous le rappelait, comme c'est très salé, effectivement, la raclette entre le fromage et la charcuterie, prenons des légumes comme de l'endive, comme du brocoli, des choses comme ça qu'on a à côté en accompagnement, et ça compense.
Moi, je mange des cornichons avec la raclette. J'adore les cornichons avec la raclette.
J'adore, moi aussi.
Une asperge de la raclette est posée dessus.
Oui.
Voilà, un petit morceau de charcuterie fumée, c'est un mariage qui est parfait.
J'achète Yves Candebord. Pas de charcuterie et de fromage de qualité sans paysan. Eh bien, on va répondre aux questions essentielles qui relient notre agriculture à l'alimentation avec l'agronome Marc Dufumier. Le bio, le gaspillage, les races à viande, l'eau. On va de la terre à l'assiette juste après ça. A tout de suite et bonne raclette.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bien manger et comprendre ce que nous mangeons, hein, vous le savez, c'est notre credo ici à la table des bons vivants. Leur exécution dans un instant avec l'agronome Marc Dufumier. Il a répondu à 50 questions sur notre agriculture et notre alimentation dans son dernier livre. Mais avant, c'est l'heure d'accueillir Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Bonjour Marion.
Vous avez un petit bout de raclette.
Oui, dopé à la raclette pour son journal de la cuisine, Marion Sauveur. Voici les titres. De l'eau de Paris, le gaspillage alimentaire mondial sous-estimé et un nouveau label pour le bio. Voilà le menu du journal de la cuisine. Agriculteurs, faites un effort pour l'environnement et vous recevrez une subvention.
Oui, c'est une première en France. La ville de Paris va aider financièrement à hauteur de 47 millions d'euros sur une dizaine d'années les agriculteurs qui utilisent moins de pesticides et d'engrais. Objectif, améliorer la qualité de l'eau du robinet. Alors sont concernés ceux qui exploitent des terres dans les zones de captage d'eau de la capitale autour de Dreux, Sens, Provins et Nemours. Le projet a été validé par la Commission européenne.
Bonne nouvelle, le gaspillage alimentaire mondial pourrait être deux fois plus important que prévu.
Oui, c'est ce que révèlent des chercheurs néerlandais. La nouveauté, c'est qu'ils ont étudié notamment la nourriture que nous mangeons en fonction de notre niveau de vie. Plus on est riche, plus on jette. Alors selon eux, on gaspillerait chacun en moyenne 527 kilocalories par jour. C'est le double des chiffres publiés par les Nations Unies. Alors du gaspillage alimentaire, on va en parler encore avec vous, hein, Laurent, et votre invité, l'agronome Marc Dufumier.
Oui, dans un instant, avec des solutions aussi. Un nouveau label pour rémunérer les maraîchers bio au bon compris, Marion.
Biologique français équitable, c'est son nom. Il a été lancé par la Fédération de l'agriculture biologique et c'est un macaron vert. Son but est de garantir aux consommateurs des légumes bio et produits en France et à un juste prix pour les paysans producteurs. On peut d'ores et déjà le retrouver sur des produits de l'enseigne Picard dans le sud-ouest.
Alors Marion, cette semaine, votre cerise sur le gâteau, c'est un cours en ligne. On appelle ça un MOOC, une formation en ligne.
Oui, c'est ça. Une formation sur Internet, c'est comme si vous étiez sur les bancs de l'école. Alors c'est le premier MOOC sur l'agriculture urbaine pour savoir monter des fermes urbaines, des ruches sur les toits, des jardins partagés. Et ça s'adresse à tout le monde, particulièrement aux personnes qui veulent monter ce type de projet. Et c'est un cours qui est gratuit.
Mais comment ça marche? C'est comme des tutos? On regarde des vidéos?
Alors c'est pas vraiment des tutos, hein. C'est vraiment un cours en ligne comme si vous étiez encore à l'école. C'est dispensé par des enseignants, des ingénieurs, des économistes. Vous avez même des témoignages d'auteurs de projets, donc des retours d'expérience. Et puis vous avez des examens, bien sûr.
Et comment on fait pour s'inscrire?
On s'inscrit en ligne. Vous aurez le lien sur europe1.fr. Et le début des cours, c'est le 13 avril. Donc vous avez le temps. Mais les inscriptions sont sans limite. Ça durera 6 semaines et 2 heures de cours par semaine.
Eh bien, merci Marion Sauveur et à tout à l'heure. Alors, le glyphosate est-il dangereux pour notre santé? Mange-t-on trop de viande? Peut-on vraiment manger bio et pas cher? Pour répondre à ces questions qui nous concernent tous, j'ai invité Marc Dufumier, agronome et expert auprès des Nations Unies et de la Banque mondiale sur les questions d'alimentation, d'agriculture et d'écologie. Ça, c'est précis. Bonjour Marc Dufumier.
Bonjour.
Vous êtes un habitué de cette émission maintenant, parce qu'on aime bien vous retrouver au micro de la table des bons vivants.
Oui, ça devient une routine.
Bah, écoutez, une routine agréable, j'espère, parce
absolument.
Que à chaque fois, on apprend des tas de choses avec vous. Pour situer, tiens, Marc Dufumier, vous avez été l'élève de René Dumont, le pionnier de l'écologie en France, et vous le dites d'ailleurs au début dans votre livre, l'écologie et l'agriculture sont intimement liées. C'est pour ça que c'est bien de remettre régulièrement les pendules à l'heure quand même.
Très juste, hein. Il ne faut pas oublier que l'objet de travail des agriculteurs, c'est un écosystème agricole, un agroécosystème. Et c'est à l'échelle de cet agroécosystème qu'il nous faut mesurer les rendements en protéines, en calories, en fibres, en vitamines, en minéraux. Oui, oui, l'agroécologie, c'est une façon de comprendre comment les agriculteurs aménagent leur environnement.
Alors l'agroécologie que vous prenez, c'est effectivement mettre en avant et en lumière un écosystème naturel sur des parcelles, sur des territoires, et pour que les choses cèdent les unes les autres. Une sorte de symbiose végétale, on va dire.
Oui, disons que l'écosystème n'est plus complètement naturel, puisque un bocage, on aurait laissé la nature,
oui,
ce serait de la forêt, ce serait de la lande, la rivière, avec ses canards, ses poissons, évidemment le riz. N'oublions pas, et tout ça, ce sont des écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Ça permet de produire de quoi manger et ça peut être durable. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, on a parfois été intelligent, on a su aménager agroécosystèmes durables.
Et alors, c'est la fin du salon d'agriculture ce week-end. De nombreux agriculteurs encore sont pointés du doigt en utilisant du glyphosate. C'est un herbicide qui fait débat. Dangereux ou pas dangereux, alors, le glyphosate, Marc Dufumier?
Alors, dangereux, oui. Mais notamment par rapport, si on le trouve dans l'eau du robinet, les effets, notamment cancérigènes, sont démontrés, c'est-à-dire que les relations de cause à effet sont démontrées, mais ce n'est pas encore statistiquement avéré parce que ces cancers-là en question, c'était des maladies du vieillissement qui vont sans doute intervenir prématurément pour la jeune génération, mais il nous faudra encore attendre des dizaines d'années pour vérifier si statistiquement c'est vrai ou faux.
Oui,
donc démontrer, oui. Statistiquement avéré, non.
Vous insistez souvent dans votre livre sur ces deux mots, effectivement, qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Ce qu'il faut dire aussi avec le glyphosate, c'est qu'il y a un effet cocktail avec les adjuvants qui sont à l'intérieur et qu'en plus, là, vraiment, c'est, pour le coup, c'est prouvé, c'est pas bon pour la santé.
Absolument.
Ça,
hein. C'est d'ailleurs bien ça qui est le plus terrible, exactement.
On parlait de l'eau tout à l'heure dans le journal de la cuisine. Vous avez vu avec la mairie de Paris qui va subventionner, comme ça, aider des agriculteurs à moins polluer les parcelles sur lesquelles on pompe l'eau pour les nappes phréatiques. C'est une bonne nouvelle, ça, quand même.
Alors, c'est une excellente nouvelle. Moi, je pense que plutôt que de dire on va aider, on devrait rémunérer. Je pense que les agriculteurs mériteraient d'être correctement rémunérés pour le supplément de travail exigé quand on veut faire une agriculture respectueuse de l'environnement. On rémunérait le travail en échange d'un service d'intérêt général.
Yves Candebord.
Par rapport au glyphosate, je reviens là-dessus. Moi, je trouve une aberration. Si on reconnaît que ce produit est dangereux, pourquoi on a besoin d'attendre 20 ans ou 30 ans, 40 ans pour savoir si réellement il est dangereux?
On attend moins, c'est moins de 20 ans. Là,
alors, on a 10 ans, 20 ans.
Très honnêtement, on nous dit on met en 3 ans, 5 ans. Si on ne prend pas des mesures pour réorienter complètement notre agriculture, on ne parviendra pas à mettre fin à ce désherbant. Il nous faut être très honnête. Il faut le dire aux agriculteurs, c'est une vraie révolution agricole pour des gens qui ont trop spécialisé l'agriculture, qui n'ont plus l'élevage, qui est spécialiste sur deux ou trois cultures, effectivement, le glyphosate, pour eux, c'est la poudre à perlimpinpin.
Oui, mais il y a des solutions. Alors, mange-t-on trop de viande? Peut-on manger bio et pas cher? Comment moins gaspiller? Voici d'autres questions soulevées dans votre livre « Marque du fumier ». Et on y répond juste après ça. Bon samedi matin sur Europe 1 et bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire.
On passe à table sur Europe 1. Sur France 5.
Chaque jour, dans le monde entier, des journalistes sont tués ou menacés en voulant révéler des scandales environnementaux. Un collectif international de reporters a poursuivi leurs enquêtes en Inde, au Guatemala et en Tanzanie. Ils ont tué le messager. Ils ne tueront pas le message. Projet Green Blood, 4 épisodes, demain dès 6h du matin en exclusivité sur France.tv et à 20h50 sur France 5.
Message à destination des fans de la mousse au chocolat de Marie Morin. N'y renoncez surtout pas. Mais laissez-vous tenter par son exceptionnel liégeois au chocolat noir. Lait entier breton, en provenance d'une ferme toute proche. Crème fraîche fermière et crème fraîche épaisse paysan breton pour la chantilly. Sans colorant et sans conservateur, bien sûr.
Marie Morin, c'est du fait Morin. Un savoir-faire artisanal, jalousement préservé par Marie, Alain, Bruno et Éric Morin. Marie Morin, une histoire de dessert comme à la maison. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Pas de nourriture sans agriculture, de la terre à l'assiette, il s'en passe des choses, on en parle ce matin avec l'agronome Marc Dufumier. Alors avant de poursuivre, on écoute l'hymne de nos campagnes, ça va vous plaire ça Marc Dufumier?
J'espère.
Une jolie chanson, Trio, Vianney, Boulevard Désert, et eux aussi s'intéressent à ce qui se passe de la terre à l'assiette.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Aujourd'hui, impossible de ne pas se poser de questions sur ce que nous mangeons. Pour y voir plus clair, l'agronome Marc Dufumier est notre invité. Vous venez de sortir, Marc, de la terre à l'assiette aux éditions Alary. De la terre à l'assiette, il s'en passe des choses et pas toujours en notre faveur. Hein. Parlons d'un sujet tiens, qui nous concerne tous. On l'a évoqué là encore dans le journal de la cuisine avec des chiffres qui seraient encore en deçà de la réalité. Des collectivités à la maison, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment un fléau. Comment réduire ce gaspillage alimentaire que vous pointez du doigt dans votre livre, Marc Dufumier?
Oui, un vrai fléau. Hein, c'est 20 kilos par habitant.
Mais on est en dessous, en fait. Ouais, c'est ça.
C'est 16 milliards d'euros pour la France entière au cours de l'année. Alors, le gaspillage...
16 milliards d'euros de nourriture jetée.
Absolument, jetée. Et alors, évidemment, c'est, on ne termine pas dans l'assiette, ça, c'est ce qu'on dit aux gamins. Oui. Termine pas, il faut que tu termines la totalité. Mais c'est aussi qu'on avait mis dans le frigo, on n'a même pas déballé, la date de péremption est passée, on a jeté. C'est aussi la grande distribution qui, souvent, parce que ce n'est pas bien calibré, jette et ne met que ce qui est calibré à l'étalage. C'est aussi, parfois, la date de péremption, on bazarde tout ça. Alors, en principe, aujourd'hui, la grande et moyenne distribution est contrainte...
Oui, avec la loi Egalim.
Avec la loi Egalim, de donner ça aux banques alimentaires. Mais oui, ce gaspillage, c'est faramineux.
Alors, est-ce qu'on laisse dans les champs, Marc Dufumier, aussi? Est-ce qu'on laisse sur pied pourrir dans les vergers, chez les maraîchers, parce que ça n'a pas le calibrage pour la grande distrib ou autre?
Oui, c'est à toutes les échelles. Alors, on peut mettre fin, effectivement, à ça, mais ça veut dire qu'il faut... Tout ce qui n'est pas bien calibré, ben, ça peut servir pour des confitures, ça peut servir pour des conserves, ça peut servir pour des quantités de choses.
Comme nos grands-mères, le goût du bon sens et on ne jette rien.
Absolument. Et puis, vous avez des exemples aussi où ce qu'on appelle les déchets, etc., servent pour du compostage, du lombricompostage. Prenez la communauté de communes de Dunkerque, c'est faire ça. Au Costa Rica, j'ai vu des recyclages. Alors, il ne faut pas de plastique, hein, bien évidemment, les déchets organiques. Mais il y a mille et une façons de recycler tout ça. Il peut y avoir même du lombricompostage à domicile.
Mais ça commence quand on fait nos courses, hein, Yves Candebord, on le dit régulièrement à cette table. Partez faire vos courses avec une idée de menu, comme ça vous revenez uniquement avec l'essentiel et pas le superflu.
Oui, la fameuse liste des courses qui je pense est indispensable.
C'est l'idée, remplir le caddie,
que
tout
plein. Ce qu'on a besoin. Quoi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance, parce que quand on arrive, nous les premiers, quand on arrive devant des étals qui sont magnifiques, on a toujours envie d'acheter. Il faut savoir se limiter, avoir fait une liste de courses précise avec les plats qu'on va préparer durant la semaine et vraiment s'arrêter à ça. Quoi.
Et alors là, on parle des collectivités et de la restauration collective qui gaspillent énormément. Vous parlez dans votre livre d'une belle initiative dans le Lot, justement.
Oui.
Parce que ça s'apprend à l'école, ça, de dire aux gamins, regardez, avec votre plateau au self, vous prenez ce qu'il faut pour manger. Et si vous voulez durable, il n'y en aura pas de problème. Hein, ça marche.
Très
ça.
Juste. C'est-à-dire, on éduque les gamins à mettre sur leur assiette que ce qu'on a envie de manger. Le pain, on le met à la fin, parce que sinon... Oui. Si on met au début, ils en prennent de trop.
C'est vrai.
Il y a une vraie façon d'éduquer les gamins à éviter les gaspillages et à ne prendre que ce qu'ils pourront manger.
Olivier.
Mais moi, j'en reviens à une idée que j'avais déjà soumise. Il faudrait qu'il y ait dans le cursus scolaire un cours, quelques heures de cours, notamment pour des gamins en 6e, en 5e, pour apprendre à se nourrir, pour apprendre ce qu'est l'agriculture, pour apprendre à cuisiner, tout simplement, et former nos enfants à ça. Aujourd'hui, on ne les forme pas à ça, on les forme à plein de choses, c'est très bien, mais c'est quand même la base de tout. Apprendre à faire les courses, apprendre à cuisiner, apprendre effectivement qu'une pomme, c'est pas parce qu'elle est justement trop belle qu'elle est bonne, mais que peut-être on peut l'accepter avec quelques défauts.
On est bien d'accord, et je pense que l'éducation jardinage à l'école, c'est aussi une éducation à la saisonnalité. Et puis les gamins qui ont planté des lentilles, qui ont planté des épinards, ben mangeront des lentilles, mangeront des épinards. C'est aussi une éducation à l'alimentation équilibrée.
Alors,
absolument.
Parlons maintenant, Marc Dufumier, d'une agriculture qui plaît de plus en plus, c'est l'agriculture bio. Est-ce qu'on peut manger bio et pas cher?
Soyons clairs, le produit bio doit être payé plus cher aux producteurs, parce que c'est une agriculture artisanale.
Plus de main d'œuvre.
Si on veut pas plus de main d'œuvre, si on ne met pas de glyphosate, le rendement va peut-être diminuer un petit peu. Donc le producteur, lui, doit être correctement rémunéré. Mais on peut manger bio pour pas plus cher. Il y a des expériences de circuits courts, en dépendant moins des intermédiaires.
Dans les AMAP?
Absolument. Et puis on découvre dans les analyses des consommateurs bio que ceux qui consomment plus de produits bio sont aussi ceux qui consomment moins de viande, plus de légumes secs, des lentilles, des fibres, pour des raisons strictement diététiques, hein, moins de cancer du côlon, moins d'acide gras saturé, moins de maladies cardiovasculaires.
Ce qu'on dit souvent
ici.
Ce
sont un peu les mêmes qui optent pour le bio.
Moi, je pense que l'économie première, justement, elle est là. C'est qu'il faut modifier, faut changer notre façon de manger, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger la viande tous les jours. Voilà, il faut se tourner vers d'autres produits, d'autres matières premières qui sont moins chères à l'achat. Et qui en finalité, mangeons de la viande peut-être que deux fois par semaine avec un prix peut-être beaucoup plus conséquent, mais équilibrons avec des féculents et des légumes le restant du temps.
Oui,
et
puis c'est insupportable de se dire qu'il y aurait une agriculture à deux vitesses. On en parlait là pendant la chanson. Ce serait insupportable de se dire que voilà, tout ce qui est perturbateur endocrinien, voilà, avec le glyphosate, c'est l'agriculture intensive, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et puis les bobos peuvent se payer du bio, quoi. C'est ça
m'insupporte de savoir que le bio serait réservé aux bourgeois bohèmes et les perturbateurs endocriniens pour les couches modestes. Donc si on veut que le produit bio soit accessible aux couches modestes, il faudra aussi quand même que les agriculteurs soient correctement rémunérés pour les services d'intérêt général, les services environnementaux, un peu ce dont on parlait là avec la mairie de Paris. Mais si les agriculteurs sont rémunérés pour leurs services d'intérêt général, le bon produit qui en résulte pourra être accessible à des couches modestes.
Ça, c'est votre grand combat, hein, que les agriculteurs ne soient pas payés uniquement pour la production, mais aussi pour l'entretien des sols et puis de l'environnement.
Absolument. Et pas d'agriculture à deux vitesses. C'est bien toute notre agriculture qui va devoir réaliser cette révolution.
Et qu'est-ce qu'on fait du bio qui vient du Maghreb, du Maroc, qui nous permet d'avoir des tomates toute l'année et à pas cher et à moindre coût, là, pour le coup?
Alors là, c'est un vrai problème, parce qu'actuellement, la demande en produits bio est élevée, donc le produit bio est vendu relativement cher. Mais on voit déjà que d'abord, l'offre ne parvient pas à répondre à la demande, donc la grande distribution commence à importer davantage de produits bio. Mais imaginons qu'on parvienne en France à produire davantage de produits bio, il ne faudrait pas que les prix viennent à s'effondrer. Or, il est très probable qu'effectivement, la grande et moyenne distribution continuera d'importer d'étrangers pour acheter moins cher. Et ça, il faut que les agriculteurs soient payés à un prix équitable, absolument.
Parce qu'il y a une équation qui est très difficile à régler. Il y a des gens qui ont 2 euros pour manger par jour. Et ces gens-là, malheureusement, ne peuvent pas avoir accès à cela. Et si on leur dit que c'est 30% plus cher, ils ne peuvent pas y arriver.
Une question, Marc Dufumier, une dernière question avec une réponse courte, tiens, s'il vous plaît. Vous l'évoquez dans votre livre. Est-ce qu'on mange trop de viande, alors?
Alors, pour des raisons diététiques, moins de viande rouge, moins de gras saturé, moins de calories vasculaires, et on remplace ça par des légumes secs, plus de fibres, je pense que oui. Maintenant, il ne faut pas s'interdire de manger de la viande, notamment pour l'assimilation du fer. Un peu de viande rouge, ça ne fait pas de mal non plus.
Et puis, un bon élevage contribue aussi au bel équilibre de nos prairies, hein, vous le dites.
Et absolument, l'élevage contribue au maintien des bocages, au maintien de l'environnement, au maintien de nos zones d'altitude. Ça évite les avalanches, fait de brouter l'herbe, absolument. Ça rend des services.
50 questions essentielles sur l'agriculture, l'alimentation, de la terre à l'assiette de Marc Dufumier aux éditions Alary. Merci beaucoup, Marc, d'être venu à cette table. Vous le savez, vous avez votre ronde serviette, hein?
Oui.
Vous venez quand vous voulez.
Je reviendrai.
Et
merci
tout
beaucoup.
Tout le monde devrait lire votre livre.
Oui, mais je suis bien d'accord. Gérard Lanvin et Olivier Marchal vont s'asseoir avec nous dans un instant, mais avant de recevoir ces deux bons vivants, on va s'intéresser au pouvoir de la fermentation en cuisine. Là aussi, c'est pour pas gâcher. Et ce sera juste après ça.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
fermenté, affiné, maturé, rassis. N'ayons plus peur du pourri, les amis. Ce procédé inquiétant joue un rôle essentiel dans la conservation et puis dans le goût de certains aliments. Vous êtes d'accord,
Yves Cordeborn? Oui, complètement. C'est vrai que c'est deux façons de voir les choses, mais le goût par rapport à ça est très important. Parce que souvent, c'est le vrai goût, c'est l'essentiel de ces produits.
Le goût originel, alors la bière, la choucroute, le fromage, bien entendu, les charcuteries, le saucisson, c'est un fromage de viande, on va dire. Le vin, font appel à ce procédé. Oh, profitons-en, tiens, Olivier Pouls, pour rappeler la définition de la pourriture.
C'est très simple, c'est la décomposition d'un corps organique sous l'action évidemment de facteurs biologiques, des champignons, des bactéries, et ça modifie évidemment son aspect, sa composition, son goût. Les champignons, par exemple, qu'on mange, c'est du pourri.
Jean-Luc Arblade est mort de rire, notre réalisateur, parce que je vous demande de définir la pourriture, mais vous connaissez, parce que dans le vin, c'est un rôle et c'est un processus essentiel.
Le principe de fermentation, oui. Évidemment, sous l'action des levures, la transformation du sucre en alcool, c'est de la fermentation.
Merci professeur Pouls. Pourri, c'est le titre un peu provoque que l'auteur et spécialiste de la fermentation Marie-Claire Frédéric a donné à son dernier ouvrage paru chez les ateliers d'Argol. Alors elle nous raconte l'histoire, écoutez bien, du Brie Noir, un fromage de Seine-et-Marne tombé dans l'oubli. Julien Amat s'est intéressé au côté obscur du Brie. Écoutez.
Alors le Brie Noir, non, c'est pas un trou noir ou quelque chose comme ça. Autrefois, les Bries qui se vendaient le mieux, c'était les Bries blancs, bien ronds, bien propres. Il y en avait toujours qui étaient un petit peu moches, qui avaient des défauts de fabrication. Alors cela ne se vendait pas, on ne jetait rien à l'époque, il n'y avait pas de gaspillage alimentaire. Les fromagers les gardaient, les affinaient dans des caves, 8 mois, 10 mois, voire même 12 mois. Et alors ils devenaient très secs, de couleur très foncée, c'est pour ça qu'on les appelle les Bries noirs. Donc des fromages qui étaient très forts en goût, qui avaient vraiment du caractère. Et donc ces fromages étaient consommés par les vendangeurs ou les gens qui faisaient les moissons. Je parle des vendangeurs parce que c'est pas loin de la Champagne. Et les paysans qui faisaient les moissons les emmenaient en casse-croûte dans les champs. Maintenant, ils emmènent autre chose que le Brie Noir. Et donc c'est un peu tombé en désuétude. Et là, ça revient. On en retrouve sur les marchés de Seine-et-Marne, chez certains grands fromagers parisiens. Et il paraît que c'est exporté même au Japon.
Les Japonais en raffolent. Effectivement, c'est une invitation à redécouvrir un des goûts qu'on n'a plus l'habitude de côtoyer. Merci Marie-Claire, Frédéric. On a du Brie Noir qui vient de Seine-et-Marne. Alors, Olivier Pouls.
Accrochez vos ceintures, les amis, parce que ça envoie.
C'est du brutal,
Ouais, oui. C'est pas du brutal.
Non, c'est pas
du brutal, c'est puissant.
C'est très puissant, c'est très intense.
Il faut le dire, c'est une concentration des saveurs et des goûts.
Après, mais on n'est pas loin du brutal quand même. Ça pique un peu.
Je suis pas d'accord avec vous. Parce qu'on ne peut pas faire la comparaison par rapport à un fromage classique, à part un Brie. C'est un produit différent qu'on utilise différemment. Alors, j'ai la chance d'avoir un producteur qui m'en amène régulièrement. Je peux vous assurer que je l'accommode souvent. Alors, en ce moment, avec une salade d'endive, Olivier, avec l'amertume de l'endive et la puissance du Brie Noir, c'est un mariage qui est remarquable. C'est des produits, justement, qui nous permettent de revaloriser ces façons de travailler qui étaient ancestrales.
Je vais vous dire la vérité, parce que là, vous venez de parler un petit moment.
C'est long en bouche et soyeux.
Exactement, il y a une belle longueur en bouche. C'est l'attaque qui peut être un petit peu brutale, mais il y a une
très belle longueur.
Un
peu piquante.
Oui, mais ça, c'est celui de Marianne Quentin qu'on remercie de nous l'avoir fourni. Il vient de Seine-et-Marne et c'est magnifique. On en trouve à Toulouse aussi.
C'est très bon. Mais il faut prévenir les gens, quoi.
Et Olivier, et ça a un peu le petit piquant qu'on peut retrouver dans des vieux parmesans aussi.
Et ben voilà, on vous mettra les références sur le site europe1.fr pour trouver certaines fromageries qui vendent du Brie Noir.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
C'est l'heure de retrouver Jean-Luc Petit-Renaud, l'ami du déjeuner, la joie de vivre, les bons petits plats, les plaisirs de la table. C'est tout lui, vous êtes d'accord?
Ah bah oui.
Mais il y a tout de même quelque chose qui le chagrine. C'est la fameuse angoisse du dimanche soir. Vous savez, le petit coup de blues, là. Bah écoutez bien, le camarade Jean-Luc, il a un remède anti-déprime. On est curieux. Salut l'ami Jean-Luc.
Salut les amis du bon week-end. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ressens toujours le dimanche, j'ai deux états d'âme. Il y a ce moment où on est toujours dans le côté festif du dimanche, jusqu'à l'heure du déjeuner, où mémé arrive avec sa boîte en carton sortant de chez le pâtissier et avec son flan, ses éclairs au chocolat. Tout ceci est enthousiaste, on tranche la pintade, on va être dans une euphorie comme ça du dimanche jusqu'au café. Et à partir de ce moment-là, on a deux choix, soit une petite sieste, soit la balade digestive. Et la balade digestive, elle est merveilleuse parce qu'on va on va arpenter une ruelle en se donnant le bras et on voit ce petit groupe qui a l'estomac rempli, l'âme bien faite, qui va dodeliner tel le canard de Barbarie sur le bord de la route. On fait quelques pas et là, on voit l'indice pointé avec son costume gris, tout est gris dans le lundi. On a une boule au ventre, on sent qu'à ce moment-là, tout va basculer. Alors pour réparer cet état d'âme, il faut immédiatement re-rentrer en cuisine et garder ses amis autour d'un clafoutis au lard et au persil et d'ouvrir une belle bouteille de brouilly. Clafoutis au lard persil avec un petit coup de brouilly, croyez-moi, on peut regarder dans les yeux le lundi se pointer.
Merci camarade Jean-Luc Petit-Renaud. C'est tellement vrai, bien dit. Clafoutis au lard et au persil, moi ça me fait envie.
Ah,
hein.
Oui.
C'est quoi votre truc pour lutter contre le blues du dimanche soir, Olivier?
C'est pas aller bosser le lundi.
Ce que vous arrivez à faire parfois, parce que vous bossez le dimanche, il faut le dire. On vous retrouve sur LCI le dimanche matin. Et vous, cher camarade Yves Courdebord?
Moi je suis un peu comme Jean-Luc, donc je vais garder quand même le coup de bruit. Oui. Parce que celui-là, il est important. Et après, moi, ce que j'aime le dimanche soir, c'est l'omelette du dimanche soir. Ouais. Je mange des omelettes que le dimanche soir. Ça me met dans une joie, une bonne humeur. Je m'endors bien et je suis en forme le lundi matin pour aller travailler.
Eh bien, pas loin. Moi, en famille, je fais la coquillette jambon beurre le dimanche soir. C'est pareil, c'est régressif avec beaucoup de beurre. Ça laisse passer la nuit pour
un petit plateau télé aussi, j'aime bien.
Oui, c'est bien aussi, voilà. Une grande tablée, tiens. Ça aussi, c'est un bon remède contre le coup de blues du dimanche soir. Eh bien, on s'y met tout de suite avec, écoutez bien, deux invités anti-déprime, Olivier Marchal et Gérard Lanvin vont déplier leurs serviettes à cette table. Dans un instant, ne bougez pas, on revient. À tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Merci d'écouter la table des bons vivants. Ça y est, c'est un moment qu'on attendait. C'est le moment d'accueillir nos invités. Et puis, quels invités, mes amis? D'un côté, un ancien inspecteur de police devenu un acteur-réalisateur qui compte dans le cinéma. De l'autre, un ancien vendeur de fripes à Saint-Ouen devenu un des acteurs préférés des Français. Petit-fils de cheminot pour l'un, petit-fils de forain pour l'autre. Ils partagent les valeurs de l'essentiel. Et aujourd'hui, à leur tour de jouer au grand-père dans Papy Sitter, une vraie comédie familiale, Olivier Marchal et Gérard Lanvin sont avec nous. Bonjour messieurs.
Bonjour et merci.
Bonjour messieurs, merci de nous recevoir.
Ravi de vous recevoir, deux gueules, deux natures du cinéma français qu'on rêve d'avoir à table. Donc on va vous cuisiner pendant une demi-heure, hein, là jusqu'à midi et demi. Quel genre de bon vivant vous êtes, tiens déjà, à table, Gérard Lanvin?
J'aime manger, j'aime boire, un bon vivant, c'est ça.
C'est ça, et voilà.
Donc je vis en plus.
Et manger, bouger, un peu de sport pour garder la ligne, quoi.
Oui, ça, ouais. il faut. Non, tu peux pas faire l'un sans l'autre, hein, si tu es acteur de cinéma, en l'occurrence, et si tu veux continuer à travailler.
C'est ça.
Donc je mange beaucoup, je bois beaucoup, et je fais beaucoup de sport. Eh ben moi, voilà. Mon truc, c'est beaucoup.
C'est ça. Rien à moitié.
Bienvenue.
Merci.
Olivier Marchal, quel genre de bon vivant? Vous êtes
moi, je suis un peu comme Gérard.
Ah, oui,
alors, c'est ce qu'il
clair.
Va dire. Sans le sport. Voilà. Donc, moi, je bois beaucoup, je mange beaucoup et puis je rigole beaucoup. Donc, pour moi, bon vivant, c'est les plaisirs de la table. J'ai été élevé comme ça. Mon père, mes oncles faisaient des grosses bouffes dans le sud-ouest à Bordeaux. Voilà, mon père avait m'amené au restaurant dans le Gers. Et, voilà, j'ai appris la bouffe et le pinard avec lui, quoi.
Donc, alors, dans le film, vous jouez...
Et on se régale ensemble, hein, on mange souvent ensemble.
Oui, on mange souvent ensemble.
Et vous vous régalez sur grand écran, on le voit dans ce film Papy Sitter qui sort mercredi. Vous jouez le rôle de deux grands-pères chargés de garder leur petite fille qui passe le bac. Alors, on est loin des flics sombres que vous avez pu jouer, Olivier Marchal, parce que c'est un grand-père qui aurait mangé un clown un petit peu,
ouais,
là, quand
ça,
même. Hein.
Oui, un clown, et puis un alcoolique aussi. Non, mais c'est un grand-père givré qui devait pas débouler, qui déboule par hasard dans sa maison, qui est à lui, et où se trouve Gérard, donc qui est un ancien colonel de gendarmerie, oui, hyper coincé, et donc évidemment
rigide,
ça va faire des étincelles.
Psycho-rigide, on peut dire. Oui, qui a de la rigueur, mais ça c'est dû à son éducation à l'ancienne, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que cette petite fille, on va essayer de la séduire tous les deux, parce qu'il y a très longtemps qu'on ne l'a pas vue. Parce que moi, on m'évite dans la famille depuis très longtemps. Et on a évité de les présenter l'un à l'autre, parce qu'on savait qu'ils ne pouvaient absolument pas s'entendre.
Aux antipodes.
Et les circonstances vont faire qu'ils vont être obligés
de partager...
Ben oui,
parce que les parents de cette jeune fille partent travailler sur un bateau de croisière, donc elle se retrouve toute seule pour passer le bac, et vous êtes là pour la garder et lui faire en manger. On va en reparler dans un instant de ce que vous lui faites à manger à cette jeune fille.
Que du bon.
Quel est votre goût de la semaine, Gérard Lanvin?
Un foie de veau.
À la maison, au resto?
Ah non, au resto.
Au resto.
Ouais, mais...
Votre goût de la semaine, Olivier Marchal ?
Moi, c'est une escalope normande. Voilà.
C'est bien ça.
Au restaurant aussi.
Ça évite de faire la vaisselle.
Est-ce que vous êtes branché ustensile de cuisine, messieurs ? Petit électroménager, Gérard Convin.
Non, pas vraiment, pas forcément.
Si, le tire-bouchon.
J'ai vu une inquiétude pour Gérard. J'ai vu une inquiétude dans son regard.
Moi, c'est le limonadier. C'est le limonadier, le tire-bouchon.
C'est l'indispensable.
Je vous présente Yves Cordebordes à côté de vous qui aime tester et détourner les ustensiles de cuisine. Et là, il a trouvé un appareil de chez Tefal qui s'appelle le Snacking Collection. C'est une sorte de machine à croque-monsieur à tout faire. Et évidemment, vous l'avez testé, Yves.
Oui, je l'ai testé. Alors, c'est un vrai retour en enfance. C'est une machine qui est très, très simple. Mais par contre, on peut faire énormément de plats avec. Parce qu'il y a des petites plaques de cuisson qui sont interchangeables. Alors, ça part d'un croque-monsieur, bien sûr, classique, d'une gaufre, d'un pancakes, d'un buns, d'une omelette. On peut faire des tourtes de viande.
Des pancakes, là, ils sont beaux, là.
Et tout ça, Laurent, avec une préparation qui dure 3 à 4 minutes et la cuisson, même pas 5 minutes. On peut enlever très facilement ces grilles. On les enlève très facilement. Elles se lavent très facilement.
Tout est facile.
Tout est facile.
Combien ça coûte, cette histoire ?
Alors, ça coûte 85 euros. Et après, chaque jeu, on a 3 jeux avec une machine et chaque jeu de plaques coûte 20 euros.
Alors là, vous avez fait une tourte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette tourte ? Racontez-nous.
Elle est bonne.
Dans cette tourte, là, j'ai pris. Alors, elle a été cuite un peu à l'avance. Là, Laurent, vous, c'est une omelette. Là, vous y coupez à l'apéritif, c'est très facile. Une tourte, j'ai pris une cuisse de canard confite que j'ai simplement effilochée. J'ai rajouté dedans un peu d'herbe, du sel, du poivre, des morceaux de fromage.
Vous avez fait l'omelette avec ça, mais
j'ai fait l'omelette avec ça aussi. J'ai pris ma plaque plate. J'ai mis une feuille de pâte feuilletée qu'on achète dans le commerce, un peu de moutarde, mon effiloché, à nouveau une plaque de feuilletage. J'ai mis dans ma machine, 8 minutes après, j'ai une tourte. Je trouve que c'est un ustensile.
C'est beau ça.
Original.
La tourte, oui. C'est
Olivier Marchal, la tourte.
Vous... Oh, c'est un délice.
Hein, vous validez ?
Oh là là.
Je trouve que c'est un appareil qui est original quand on veut faire un apéritif rapide à la maison, mais aussi pour les jeunes qui ont des petits studios, qui n'ont pas la chance d'avoir un fourneau. Un tel ustensile leur permet de faire une petite cuisine personnalisée, très rapide à faire.
Gérard Lanvin ?
Très bon, pas de problème là-dessus. Le fromage aussi. J'aime mélanger les
saveurs.
Les saveurs
oui.
Mais après, Laurent, ce qui est important, c'est souvent ces appareils. Quand on a un appareil à gaufres, on l'utilise une fois dans l'année. Là, c'est vraiment l'appareil que vous laissez sur votre plan de travail.
On s'en sert.
Et que vous utilisez du 1er janvier au 31 décembre pour différentes préparations.
Yves Cordebordes, le Snacking Collection de Tefal. On vous mettra les références sur europe1.fr. Ne bougez pas, nous avons deux beaux invités, deux bons vivants. Olivier Marchal d'un côté, Gérard Lanvin de l'autre, qui s'hydrate parce que c'est très important de s'hydrater quand on doit tenir jusqu'à midi et demi. Gérard.
Un pommard, c'est idéal pour s'hydrater.
Un beau pommard.
Un beau pommard.
Ne bougez pas, on revient juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. A tout de suite sur Europe 1.
Ça pour un euro.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pousse d'épinards. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Bienvenue, si vous nous rejoignez à la table des bons vivants. Nous sommes en bonne compagnie après avoir fait le tour des fromages à raclette et de l'appareil à croque-monsieur, à gaufres et à pancakes avec Yves Cordebordes. Eh bien, c'est l'heure d'attaquer le plat du jour avec nos deux invités, Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Un beau casting, on est vraiment heureux que vous soyez à cette table.
Merci.
Dites-moi, messieurs, dans un monde qui devient de plus en plus policé, politiquement correct, ça va être agréable un petit peu de faire l'acteur aussi et de jouer des personnages parfois un petit peu immoraux, Gérard Lanvin. Je ne pense pas forcément à Papy Sitter, mais à tout ce que vous avez pu faire dans votre carrière.
Bien sûr que c'est agréable, de toute façon, d'endosser des costumes qui ne sont pas nos quotidiens. C'est ça qui nous amuse dans les métiers qu'on fait. C'est-à-dire qu'on joue des caractères différents d'une autre, en se servant de nos personnalités, nos points de vue aussi pour les interpréter. Mais au-delà de ça, c'est sûr que on a le fantasme de certains trucs et on peut les assumer au cinéma.
Olivier Marchal et Gérard Lanvin, vous ne vous quittez pas beaucoup parce que je m'amusais à regarder un petit peu. Il y a eu le fils à Joe de Philippe Guillard qui réalise d'ailleurs Papy Sitter dans lequel vous êtes. C'était la première fois que vous vous rencontriez au cinéma dans le fils à Joe
Oui, on s'était croisé il y a longtemps.
Au cinéma,
C'était ça. Il y a eu Les Lyonnais.
Les Lyonnais, oui, je l'ai eu comme patron.
C'est ça.
Ouais.
Et il y a un prochain film en préparation, Olivier Marchal.
Je viens de le terminer là, il s'appelle Bronx et ça va sortir en septembre.
Voilà. Et on retrouvera.
Il y aura Gérard et Jean Reno, on trouve. Et puis toute
une participation
de génération
de service. Parce que il faut bien qu'il ait des.
Mais il me fallait deux vieux, donc ils sont plus nombreux. Donc ça tout même vous tapez acteur vieux, il y a l'envers qui sort en premier sur Google.
En attendant le plat du jour qui va arriver dans un instant, autour de quel plat vous aimez vous retrouver, vous, dans la vie?
Tous les plats.
Nous, on aime bien la côte de bœuf. À IGG, on s'en est fait quelques-unes.
Ouais, mais cassoulet aussi, c'est intéressant.
Blanquette, si je vous dis
blanquette. De veau, bien évidemment.
Alors, c'est pas une blanquette de veau que je vous propose.
Pour ça.
Mais c'est pas loin. Ça va vous plaire, je suis sûr. Ouais. Pour changer du veau, on vous propose une belle blanquette de joue de porc. Un morceau très fort.
Bah évidemment, la joue de porc.
C'est une recette de Hélène Tubac. On s'est dit qu'il fallait mettre un petit peu de féminité quand même dans cette émission aujourd'hui. Donc Hélène Tubac, qui est la chef du restaurant Les Deux Bécasses à Cerdon du Loiret en Sologne. C'est une belle auberge contemporaine, comme vous aimeriez. Je suis sûr que ça vous plairait sûrement, comme adresse. Ouais. Marion Sauveur était aux premières loges pour la recette. Un bouillon d'un côté, une joue de porc tendre et bon marché de l'autre. Tendez l'oreille et la joue.
Là, on a nos petites joues de porc, qui est en fait un abat. Hein. On couvre d'eau et c'est là qu'on va rajouter le cidre. Je la fais cuire au four dans un faitout fermé. Je trouve que ça confie beaucoup mieux les morceaux de viande.
Pour une heure et demie.
On peut même aller jusqu'à deux heures. Et après, on a une joue de porc qui se mange à la fourchette. Pendant que la viande cuit, on peut faire le roux. Je vais aller prendre un petit peu de bouillon. Le beurre est fondu, donc là on redescend un petit peu le feu avant d'incorporer la farine. Quand vous avez l'effet sable mouillé, ça y est, il faut incorporer progressivement, pour pas qu'il y ait de grumeaux, le bouillon. On va rajouter le jaune d'œuf, un peu de gingembre pour casser le sucre, et on est bon.
On met tout simplement la viande maintenant à l'intérieur
dans la
du
sauce.
Roux.
Voilà.
On goûte ?
Ah bah oui. On a exactement le soyeux qu'il faut.
On n'a vraiment pas besoin du couteau.
Non,
hein.
C'est l'objectif. Hein. Il faut la confire, cette joue. Un petit peu la force du gingembre. On garde quand même le bon goût de ce bouillon.
C'est délicieux.
Et bon, on y est. Bravo,
formidable,
les filles.
Formidable d'entendre des femmes faire ça.
Cuisiner ensemble.
Ah, ouais,
merci,
ludique.
Marion Sauveur, pour ce joli reportage. Ouais. Les Deux Bécasses à Cerdon du Loiret, en Sologne. Vous prenez le temps de cuisiner, Gérard Lanvin?
Pas
un petit
du
peu.
Tout.
Jamais.
Eh non. Pas du tout. Enfin, je fais la cuisine de survie, moi.
C'est quoi la cuisine de survie?
Je peux me faire des pâtes, ça sans problème,
une
puisque c'est
sardines.
Marqué sur la boîte 6 ou 8 minutes. Je peux me faire une boîte de maquereau, mais sans problème.
Poisson bleu, excellent, excellent pour la santé, le maquereau.
Non, voilà, c'est de la survie, omelette, machin, des trucs basiques. Mais j'ai une femme qui fait tellement bien la cuisine que je la laisse faire. Et même la vaisselle, je la laisse faire.
Fais attention, par les temps qui courent,
oui,
Gérard.
Non, mais tant pis, les temps qui courent, c'est comme ça. Mais bon, ils courent les temps, mais pas moi.
Joli, c'est joli. Et Olivier Marchal, vous prenez le temps de cuisiner un petit peu?
Non, malheureusement, moi je suis fils de pâtissier en plus, donc j'ai travaillé avec mon père dès l'âge de 13 ans, contrairement à Gérard qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais. Donc moi j'allais chercher mon argent très petit. Mm-hmm. Non, je plaisante. Non, j'ai appris à faire les gâteaux, la pâte à choux, les
tartes. C'est une chanteuse pâte à choux.
C'est une chanteuse pâte à choux, merci Gérard. Mais je sais faire l'omelette pomme de terre sarladaise, ça voilà. Moi je peux
un
me faire ça, je peux me faire ça avec une salade verte et puis un bon pinard et un bon plateau de fromage.
C'est
bon
choix ça.
Mais c'est fait demain, je peux tout bouffer chez toi.
Mais c'est vrai que j'ai pas le temps.
Papy Sitter, mercredi prochain sur les écrans, une belle comédie familiale avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Ne bougez pas, on revient dans un instant et on va répondre aux questions que vous avez posées sur le fameux répondeur, le 3921. Des idées de recettes et des questions sur les produits de saison, eh bien nous serons là pour y répondre avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. A tout de suite et bon samedi midi sur Europe 1.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Avec Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé. Chaque samedi, de 11h à midi et demi, vous écoutez le son de nos recettes qui chantent et les coups de fourchette de nos invités. Ce midi, nous recevons deux bons vivants qui se tiennent bien à table. On en a la preuve depuis midi. Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Non, pas du tout. Ils apprécient les bonnes choses, c'est
absolument.
Ça que je veux dire. À l'affiche de Papy Sitter, une comédie familiale qui sort mercredi, dans laquelle vous incarnez tous les deux grands-pères, on l'a dit, complètement opposés. L'un est bohème, joué par vous, Olivier Marchal. L'autre ne jure que par leur c'est vous, Gérard Lanvin, et vous vous retrouvez à garder votre petite fille, et puis à un moment, il faut quand même la nourrir. Et vous n'avez pas la même conception de la nourriture, Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Qu'est-ce que vous lui faites à manger, Gérard, dans le film?
Du sein, du poireau.
Vapeur.
Du poireau vapeur. Tout est vapeur.
Du sein, ouais, tout est vapeur. Ouais, du sein, ouais. Pas du nichon. Pas du nichon. Tu ne fais pas du nichon.
Tu es bloqué.
C'est pas possible. Il l'a bloqué.
Voilà.
Je me prépare des libards.
Ouais, quand on mange sein, on dort sein. Quand on dort sein, on travaille bien.
Voilà. Et quand on mange sein.
Et bois du vin, t'auras des copains.
C'est ça. Et quand on mange sein sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Jean-Pierre Marielle dans Calmos. Absolument. absolument.
Ah, d'accord.
Et vous débarquez voir votre petite fille avec votre appareil cuivre-vapeur pour qu'elle mange correctement.
Bah, hein. C'est un mec très organisé. Dans le coffre de sa voiture, il y a tout. Toutes
c'est
sortes de piles. Enfin, on ne sait jamais. Le mec se déplace avec son matériel. Ouais.
Et vous, Olivier Marchal, c'est un grand-père bohème qui vient de l'univers du cirque. Hein,
oui,
on le découvre
un dingue,
c'est la junk food, hein, plutôt.
Oui, voilà, exactement. Oui, c'est plutôt pizza emportée, McDo. Et donc, voilà. Enfin, bon, c'est tout ça.
Oui, je sais ce que tu fais. C'est le pommard qui agit.
Difficile à comprendre.
J'ai bu deux verres de pommard. J'ai pas déjeuné, il est midi. J'ai bu deux verres de pommard.
Qu'est-ce que tu fais là? T'as bouffé la moitié de la tourte.
On parle vin et cinéma parce que dans un instant, les deux minutes du vin d'Olivier Pouls seront consacrées au vin et au cinéma. Le rapport très, très intime entre le vin et le cinéma. Les films que vous avez pu faire, Gérard Lanvin, autour du vin au
J'en
cinéma.
J'en ai fait un qui s'appelle Premier Cru.
On va en parler dans un instant avec Olivier. Mais juste avant, c'est l'heure de répondre aux questions que vous posez au 39-21. Eh bien, voici la question de Margot.
Bonjour, Margot de Paris. Je voudrais connaître la vraie recette du riz pilaf afin de ne plus le rater. Merci, la table de mon vivant. Au revoir.
Ah, c'est un ratable, vous dites, Yves Candebord. C'est comme souvent, les choses les plus simples sont parfois les plus compliquées. Margot, on va lui donner le truc. C'est la quantité d'eau par rapport, ou de bouillon par rapport au riz, déjà.
J'ai envie de dire que le riz pilaf, c'est de la pâtisserie.
Oui, c'est précis.
Voilà, c'est précis, il y a une règle, il ne faut pas en déroger. Alors déjà, le riz, surtout, n'allez pas prendre un riz à risotto.
Non, pas de riz rond.
Non, mais l'erreur, c'est souvent
ça. C'est vrai.
Aujourd'hui, il y a cette lubie là, du risotto, donc tout le monde prend un riz à risotto, ça n'a rien à voir.
Non, c'est pour le risotto.
Ce qu'on trouve dans le commerce, un riz à paella, entre guillemets, et qui ne colle pas. Voilà, c'est la base. Après, on fait tomber un oignon ou une échalote, on met son riz dedans, on le nacre. Avant de mettre le riz dedans, on mesure le riz.
Nacré, c'est le rendre translucide en le mettant dans la matière grasse. Voilà.
Mais l'important, c'est qu'il faut mesurer le riz avant.
Ouais, exactement.
Vous le pesez, vous le mettez dans un récipient.
Ou le verre mesureur. Moi, je fais ça au verre mesureur, ça marche bien.
Exactement. Donc, vous savez exactement combien vous avez de riz. Donc, vous mettez votre riz dans votre oignon, vous le rendez translucide et vous mouillez avec une fois
et demi
voilà, le volume du riz. Vous lui donnez une petite ébullition, vous l'assaisonnez et vous l'enfournez dans un four pendant entre 15 et 16 minutes.
C'est
dans
ça.
Un four. Et vous n'y touchez pas.
Le truc de pro, c'est ça, c'est le four. C'est pas sur la plaque de cuisson, c'est au four à 200
four
degrés.
À combien voilà. 200
degrés.
Il faut un four à 200 degrés. Mais surtout, on ne le remue pas, on ne le touche pas, on le laisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le riz, les grains de riz vont absorber intégralement tout le liquide et vous allez avoir un riz pilaf qui est terminé. Quand vous le sortez avec une fourchette, vous y mettez une belle noix de beurre, vous l'égrenez à la fourchette de noix de beurre et votre riz pilaf, il est prêt.
Gérard Lanvin boit vos paroles, Yves.
Il est bon, ton riz, mon ami.
Quand vous voulez.
Une question sur laquelle on pourrait vous aider en cuisine, tiens, Olivier Marchal.
Franchement, j'adorerais pouvoir... un bœuf bourguignon. Voilà, je sais pas le faire. Voilà,
c'est spécialité de ma femme.
C'est assez facile, en plus, un bœuf bourguignon. Demandez à votre boucher de choisir les bons morceaux pour le beurre bourguignon. Vous le faites bien revenir, bien que ce qu'on appelle caramélisé.
Ouais.
Le mieux, c'est une cocotte en fonte.
Ouais.
Voilà. Après, vous y rajoutez une garniture aromatique dedans, des carottes, des oignons, et vous le mouillez avec du vin. Alors, on peut le faire mariner à l'avance si on veut.
Il y a un grand débat sur la marinade parce qu'on dit que parfois ça rétracte la viande, que ça ne sert pas grand chose.
Après, l'important, avant de mouiller avec le vin, vous le portez à ébullition et vous le faites flamber.
Mais il faut quel genre de vin, par exemple?
Alors, le mieux, c'est pas aller prendre. Surtout, prenez pas un pommard, c'est totalement ridicule. Mais par contre, prenez quand même un bon vin.
Oui, il faut pas mijoter sur le vin parce que la qualité de la sauce est proportionnelle à la qualité du vin.
À la limite, il faut presque un vin qui a un peu de caractère tanate. Un tanate. Ou alors un beau Gamay franc, des vins qui ont un peu de corps, qui ont de la puissance, qui vont supporter la cuisson et qui vont transmettre à la viande toute sa saveur.
Ok, merci.
On continue à parler de vin dans un instant avec Olivier Pouls. Ce sera les deux minutes du vin consacrées au cinéma avec quelques surprises. Vous allez entendre. Merci Yves Candebord pour ce beau bœuf bourguignon et vous retrouverez toutes les références sur europe1.fr. Ne bougez pas, nous sommes avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal à la table des bons vivants. Bon samedi midi sur Europe 1. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
L'émission touche à sa fin et nous sommes attablés avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal, c'est le cas de le dire. On vous demandera le mot de la fin, FIM, tout à l'heure. Hein.
Voilà.
Donc réfléchissez, Gérard Lanvin. Dans un instant, on va vous découvrir côté table, justement, grâce au questionnaire des bons vivants. Gérard Lanvin, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Nous sommes ici au studio Coluche, à Europe 1. Un de vos grands copains, un de vos meilleurs amis. C'est vrai, ça, cette légende, que vous êtes rencontré en lui vendant une salopette aux fripes de Saint-Ouen?
Oui, bien sûr. Non, c'est vrai. Mais en même temps, il n'était pas encore le Coluche que tout le monde connaissait. Hein. C'était un garçon qui arrivait avec une 750 Harley Davidson. Moi, j'avais une Electra Glide il s'est garé devant mon stand parce qu'on avait une moto en commun, la marque. Et on a parlé de ça, puis il a vu une salopette suspendue. Je faisais de la fripe américaine, on était très peu à en faire ça aux puces. Et c'était une Oshkosh, la marque Oshkosh, à rayures. Et voilà, il m'a acheté ça. Alors, tout le monde dit, je lui ai vendu sa salopette. Je lui ai vendu une salopette.
Oui, c'est ça, oui, il en a plusieurs en plus.
Et on a discuté. Ensuite, Martin Lamotte est venu me voir, etc.
Pour c'est construire comme ça. La veuve Pichard, qui est le point virgule aujourd'hui.
Voilà, ils m'ont demandé si je connaissais quelqu'un qui avait un camion. J'ai dit, oui, j'ai un camion. Et voilà, et puis j'ai été les aider à faire et les travaux rue Sainte-Croix de la Bretonnerie d'un café-théâtre qui s'appelait La Veuve Pichard, Maison Sérieuse, et qui est venu, le point virgule, à l'identique de ce qu'on a construit.
Exactement, mais à chaque fois que je passe devant, je pense à vous, parce que je me dis quelle histoire incroyable, cette bande de potes comme ça qui jouait et en même temps qui a construit ce café-théâtre.
Ouais, incroyable.
Comment il était Coluche à table?
Ah bah, Coluche à table, il nous amenait chez Trois Gros, il prenait tout le menu. On était six et il disait au mec tout.
C'est bon,
et comme ça, à 6, on mangeait tout. Enfin, lui, il nous donnait ce qu'il goûtait, et nous, on finissait les assiettes qu'il goûtait. Au niveau de la bouffe, il nous a fait aussi, parce que c'était un excessif, mais en même temps, il allait au bout des choses. Il a voulu être un spécialiste du pâté de foie. On allait aux boucheries Bernard à 6h ou 7h du matin acheter des foies de volaille. Et on avait toutes les marques de boutons. On avait des merceries sur les épaules, quoi, toutes les tailles en boutons. Jusqu'au moment où il a réussi un pâté de foie extraordinaire.
Ah oui, donc
mais pendant un mois, il a fait que du pâté de foie.
Il a fait des tests, quoi.
Il a fait des tests avec nous.
C'est ça.
Parce que comme il nous avait sous la main, c'était plus facile.
Quelle histoire. Un beau pâté de foie, hein. ça fait rêver, ça, Olivier Marchal.
Tout à fait.
Un vrai bon pâté de foie. On aime ça, le tartiner.
Mon père faisait le pâté lorrain aussi.
Ah, le pâté lorrain.
J'ai les souvenirs de pâté lorrain.
Cette farce à base de veau et de porc marinés dans un gris de tôle, comme ça. C'est sublime, ça. C'est magnifique. Alors, pour accompagner un bon pâté lorrain ou alors une belle part de pâté de foie, il faut un bon vin. Et on va parler vin avec Olivier Pouls. Et Olivier, évidemment, vous vous êtes inspiré de nos deux invités pour faire un rapport entre le vin et le cinéma, parce qu'il y en a des rapports. Hein.
Ben c'est vrai que le vin et le cinéma ont toujours entretenu des bonnes relations. Il y a des scènes mythiques, bien évidemment. Écoutez ça.
Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un...
C'est de Funès.
Ouais. Château Leuville-Las Cases, 1953. Exact.
Bravo. Julien évidemment. Oui. Alors, ce qu'il raconte n'est pas tout à fait exact concernant le cru en question, parce qu'il n'y a pas de coteau ensoleillé à Leuville-Las Cases, mais c'est pas grave, la scène est quand même assez remarquable. Mais c'est vrai que le vin et le cinéma s'aiment beaucoup.
Je vous arrête deux secondes, Olivier, parce que L'Aile ou la Cuisse, vous avez joué dans L'Aile ou la Cuisse, Gérard Lanvin.
Oui. Ah, j'ai joué, il s'en vante pas. À L'Aile ou la Cuisse dans le cirque. Coluche nous disait, mets-toi bien à droite, qu'on voit ton bras, comme ça tu reviendras demain. On faisait de la figuration.
Vous êtes un personnage derrière de Funès, là, en clown.
En trapéziste.
Ah ouais,
en collant blanc,
avec
blanc,
un moule-burne qui a fait rêver des générations.
Alors, plus sérieux, après L'Aile ou la Cuisse, enfin plus sérieux en tout cas, avec un vrai rôle, là, et puis un joli rôle dans un film qu'on aime beaucoup qui se passe en Bourgogne, Olivier Pouls.
Il y a beaucoup de films de relations, finalement, le vin est une matière qu'on va utiliser comme finalement un fil rouge, mais pour parler d'autre chose, et souvent des relations entre père et fils, parce que c'est vrai que le vin, c'est la transmission. C'est quelque chose de très fort dans ce registre-là. Et puis on a un petit extrait, évidemment, ça va vous rappeler quelque chose.
Cep séché, sous-bois, c'est pas du tout jeune, ça. Putain, Romanée Conti 66, l'année de mes premières vendanges. D'année en année, j'ai appris à les connaître, mes vignes. Tu sais, ici en Bourgogne, il y a deux choses qui sont sacrées. La première, c'est de faire le meilleur vin possible pour honorer la terre. Et la deuxième, c'est la transmission.
Ben voilà, premier cru, film que vous avez tourné en Bourgogne, et d'ailleurs, en hommage ou en honneur de ce film. Vous avez tourné juste à côté, je vous ai apporté un délicieux pommard, Clos des Epneaux du Comte Armand, qui apparemment descend plutôt pas mal.
Oui, tout à fait, oui.
Il vous plaît, Gérard Lanvin ?
Il n'y a qu'une bouteille, c'est ça le problème.
Vous verrez vite. c'est la jolie preuve.
Ouais, oui,
c'était naturel de parler de vin comme vous l'avez fait dans cette scène, de commenter, ou alors vous avez pris conseil avec un œnologue, avec un sommelier pour le vocabulaire du vin pour,
Non, tout était écrit par le metteur en scène, mais le truc, c'est que moi, je suis élevé dans le Bordelais. Donc moi, c'était plutôt le Bordeaux, mon histoire. Donc j'ai vendu le Bourgogne, mais le Bordeaux était plus mon histoire. En tout cas, mon palais a été culotté au Bordeaux.
Alors, à Bordeaux, il y avait évidemment « Tu seras mon fils » avec Nils Arestrup, qui est un petit peu dans cette veine-là aussi, question d'histoire de transmission. Et puis aussi, en Bourgogne à nouveau, l'excellent film de Cédric Clapiche. Évidemment, ce qui nous lie sur l'histoire, aussi, d'une reprise d'un domaine par une famille qui s'était un petit peu déchirée.
Il y a des documentaires aussi, parfois intéressants à voir sur le vin, Olivier.
Alors, il y a aussi des documentaires. Il n'y a pas très longtemps, on a vu « L'âme du vin » au cinéma, un documentaire sur la Bourgogne, très immergé dans ce qu'est la complexité de ces terroirs et les hommes qui font les vins. Et puis il y a quelques années le fameux Mondo Vino, dont on a énormément parlé, de Jonathan Nociter, une vision assez intéressante, un petit peu originale et orientée, on va le dire, du monde du vin, mais qui avait beaucoup et très bien marché au cinéma.
Eh ben merci Olivier, on vous retrouve dans l'équipée sauvage du camarade Mathieu Noël tous les jours de 16h à 18h. Gérard Lanvin, Olivier Marchal, vous avez souvent joué des flics qui mènent des interrogatoires. Eh bien, à notre tour de vous cuisiner avec le questionnaire des bons vivants. Alors, Olivier Marchal, tiens, quel est le goût de votre enfance?
Moi, c'est le canard à l'orange que ma maman faisait excellemment bien.
Le goût de votre enfance, Gérard Lanvin?
Escalope panée purée.
C'est du simple et de l'efficace.
Ah oui, ma mère était la reine de l'escalope panée, avec des petits citrons cuits dans la poêle et tout, super.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Une potée, je crois, une bonne potée, ça reste, voilà.
Dans la mémoire.
Ah ouais, le goût de la potée, l'odeur de la potée,
le chou. Le chou, et pareil, la mauvaise presse, souvent le chou, mais qu'est-ce que c'est bon, un chou bien cuisiné. Olivier Marchal, votre plus beau repas?
J'en ai eu plein, notamment, je sais pas parce qu'il est là, mais c'est vrai, chez Yves, et puis il y a eu un moment où j'ai été invité à la table chez Guy Savoy, à la table des invités en cuisine, et c'était la table des copains, on était avec Denis Charvet, et j'ai vu l'arsenal militaire d'une cuisine de grande batterie, voilà, et on a bouffé au milieu de tous ces gens qui travaillaient, et c'était inoubliable, voilà. Enfin, après, je peux plus vous dire ce qu'on a mangé, mais c'était délicieux, et voilà, mais je m'étais régalé chez Yves aussi à sa brasserie.
Très grand chef, Guy Savoy. Voilà.
Votre pire repas?
Pire repas, alors c'était un tournage en Bulgarie. C'était la cantine de Bulgarie, voilà, tous les jours. C'était épouvantable. Voilà, mais c'est pas leur faute.
Gérard Lanvin?
Un riz de veau mal cuit.
Ah oui,
mal
ça,
fait,
du...
quoi.
Ah oui, c'est
mal
pas
fait.
Ça.
Pire repas.
Ah oui. Ah, il faut que ce soit bien rosé. Ça,
parce que j'adore les abats, moi. J'adore le riz de veau.
Les produits tripiers, c'est magnifique.
Et là, quand c'est pas bon, ça vous met par terre, quoi.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte, Olivier Marchal?
Eh ben, du sein. Comme le dit Gérard, je mangerai du sein.
Et vous, Gérard Lanvin, quel plan mèneriez-vous sur une île déserte?
J'ai aucune raison d'aller sur une île déserte, mais au cas où ça arriverait, il y a du poisson autour. Donc, c'est du poisson.
On pêche.
Eh oui.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Gérard Lanvin?
Olivier Marchal, Philippe Guillard et ma femme.
Et vous, voilà. Olivier Marchal?
C'est un amour, j'ai dit à peu près la même chose. Il y a Lanvin, la Guille, il y a... Le Cluiz,
Guy Le Cluiz,
super acteur. Et puis après, si, dans ceux qui sont morts, j'aurais rêvé de bouffer avec Ventura, Gabin, Bernard Blier, et puis d'autres. Mais
ils ont laissé les ronds de serviette.
Ouais. Ouais. Confirme que fourchette à la main, vous.
On
laisse rien.
Hein. Et le mot de la fin pour terminer, FAIM, Olivier Marchal.
Eh bien, si on allait se faire une bonne gamelle, maintenant.
Avec plaisir.
J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre, bien tendu.
Ah, ben voilà, si ton gros Patrick Topalov, les grands auteurs, voilà. Toujours.
Ben, il les a tous, il a tous les albums.
Merci, messieurs, infiniment d'être venus à la table des bons vivants, Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Allez les retrouver au cinéma dans Pépiciteur, une belle comédie d'Olivier Guillard. C'est fantastique, vous allez vous marrer, vous allez rire. C'est très joli en plus, c'est très bien filmé dans un joli paysage du côté de la côte basque et du côté des Landes. Ouais. Merci Yves Candebordes, merci Olivier Pouls.
Merci à vous tous.
Bon breuvage, merci Marion Sauveur, Jean-Luc Arblade à la réalisation, Agnès Vaudin à la programmation, Lucie Lescourou à la rédaction en chef s'il vous plaît, aidée de Julien Hamat à la rédaction. On se retrouve la semaine prochaine les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas, c'est le week-end, faites le marché, la cuisine et le reste aussi.
Très important.
Les recettes vous attendent sur europe1.fr. Salut Justine, bon week-end.
Bon week-end Laurent. Et parmi le reste d'ailleurs, il faut surtout continuer à écouter Europe 1. Parce que dans quelques minutes, ce sera votre journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle. Et à 15h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet et Bruno Salomon pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Alors très bon samedi et les midi 27 à Europe 1.